Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
On your mark.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par la médaille d'or de Clarisse Akbenyenou, évidemment le seul métal qui manquait à son palmarès. Et pour ne rien vous cacher, j'ai versé ma petite larme. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Maxime Dupuis est à mes côtés. Salut Maxime, toi aussi t'étais ému pour le titre de Clarisse ?
Bah, moi je suis un cas d'artichaut, donc je pleure pour beaucoup de choses. Tu mets devant Kramer contre Kramer, je pleure à chaque fois à la fin avec la scène du pain perdu, donc oui, je pleure.
C'est beau, même elle était en larmes, c'était incroyable. Magnifique. Nous débuterons évidemment avec cette belle médaille d'or, c'est la belle histoire du jour. Au programme également une nouvelle rubrique, Retour de Tokyo, avec notre premier invité, Samuel Kistohuri, le boxeur français qui s'est fait sortir d'entrée malheureusement du tournoi olympique sur une décision arbitrale litigieuse. On reviendra dessus avec lui. On enchaînera avec la question qui fâche sur Osaka en présence de notre consultant Arnaud Di Pasquale. Et l'affiche à suivre mercredi, vous verrez, c'est plutôt les affiches à suivre mercredi. L'heure olympique, c'est parti. La belle histoire du jour concerne donc Clarisse Akbenyenou avec ce titre olympique, le seul qui lui manquait à son palmarès. Pour en parler, on accueille notre spécialiste judo de la rédaction, Raphaël Brosse. Salut Raphaël.
Salut Adrien, salut tout le monde.
Alors, on va y revenir en long, en large, en travers sur ce titre, parce qu'évidemment, il a fait plaisir. On a vu les larmes de Clarisse, on a vu tout ça. Il fallait que ça sorte.
Et c'est sorti.
Eh oui.
Et c'est magnifique. Hier, je disais ici, je n'avais pas trouvé mieux que comparer gagner 5 titres de champion du monde sans gagner les JO. C'était un peu comme pour un footballeur, gagner 5 fois la Ligue des champions et ne pas gagner la Coupe du monde. Eh ben, aujourd'hui, elle a gagné la Coupe du monde. C'est-à-dire que c'est la sphère au-dessus, c'est le titre absolu. Les retombées médiatiques sont évidemment sans équivalent parce que là vous rentrez non pas seulement dans le cœur des spécialistes de sport, des amoureux du judo, mais dans le cœur des Français tout court. C'est exceptionnel et je pense que ça va se voir. Et puis ce que j'ai bien aimé, il y a deux choses que j'ai bien aimé, c'est que c'est une histoire complète. Il y a presque un livre à écrire là-dessus. Ça commence en 2016 avec cette déception, cette même adversaire en finale, ce parcours, ces 5 ans à ruminer cette défaite et finalement à réussir à exorciser tout ça. Donc ça, c'est formidable. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, qui n'est pas toujours très français, on va dire, c'était un peu « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». J'étais venu pour l'or, rien d'autre, et j'étais là au rendez-vous. Ils sont rares ceux qui réussissent à faire ça. On en connaît en judo, notamment Teddy Riner. Elle avait en plus le fameux porte-drapeau. On en parlera un peu plus tard dans l'émission de ce qu'est la pression d'être en avant lors d'une cérémonie d'ouverture. Coucou Naomi Osaka, voilà. Et ben elle a porté le drapeau. Elle savait que c'était compliqué, qu'il fallait y aller. Elle l'a fait, donc... Je ne sais pas si c'est une journée parfaite, mais ça n'en est pas loin. Et je pense qu'il faudra lui demander, quand on la verra peut-être à Eurosport la semaine prochaine, quand elle rentrera, est-ce qu'elle pouvait justement imaginer mieux que cette journée avec cette finale ? Moi, je ne suis pas certain.
Ouais, on l'a vu, comme tu disais, en mission, dès son premier combat, Raphaël, on l'a vu très concentré sur son objectif, aller chercher l'or.
Exactement, elle a été fidèle à ce qu'elle nous démontre depuis plusieurs années maintenant, même depuis 5 ans, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a 5 ans, quand elle débarque à Rio, Clarisse, elle est encore jeune. Elle a 23 ans, ce sont ses premiers Jeux olympiques. Elle fait médaille d'argent. Pour beaucoup de monde, ça aurait été déjà un premier accomplissement, un premier pas. Mais elle n'a pas du tout apprécié. Elle n'a jamais digéré cette médaille d'argent. J'en ai discuté d'ailleurs avec Autonne Pavia récemment, qui elle aussi est une ancienne judoka de l'équipe de France, qui connaît très bien Clarisse, qui était en chambre avec elle à Rio, au village olympique. Elle m'a raconté cette anecdote. Au lendemain de la finale perdue de Clarisse, elles sont allées se promener et Clarisse lui a dit: moi, cette médaille, je suis dégoûté, j'en voulais pas. Cette finale va me rester en travers de la gorge jusqu'à Tokyo, jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Et c'est exactement ça, en fait. Et plus que ça, elle n'a pas ruminé de manière négative, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais elle a tout mis en œuvre pour effacer cet échec. Par exemple, elle se fait piéger au sol à Rio, eh bien, elle a voulu rectifier le tir, c'était son point faible, le sol, mais elle s'est entourée de personnes compétentes. Elle a travaillé avec un entraîneur de jiu-jitsu brésilien pour s'améliorer et c'est devenu une machine de guerre dans ce domaine également. Et elle a tout travaillé, elle n'a rien laissé au hasard, elle a tout planifié. C'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, elle a son propre staff maintenant, et elle avait tout prévu. En fait, la seule chose qui a un peu décalé son calendrier, qui lui a mis un petit coup au moral, un gros coup au moral même, c'est qu'elle pensait prendre sa revanche en 2020, finalement elle a dû attendre 2021.
Ouais, elle a formidablement pris sa revanche, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y Maxime.
Et j'espère que ça marque un peu une rupture dans ces JO pour l'équipe de France, non pas qu'on était sevrés de médailles, parce qu'on a vu des médailles, ça n'est pas de problème. Mais,
c'est encore une médaille au judo. Hein.
Ouais, alors merci le judo, enfin, c'est souvent merci le judo, merci l'escrime, mais c'est là ça. C'est par l'absurde pour l'instant. En fait, on avait des JO de belles histoires, c'est-à-dire que Canon notamment en escrime, c'est-à-dire des JO d'outsider, un peu dans la lignée de ce qu'on vit dans le sport finalement depuis un an et le début du Covid, c'est-à-dire qu'on a, vous regardez toutes les compétitions, peut-être pas toutes, mais en grande partie, on a souvent des équipes qu'on n'attendait pas, ça a un peu rebattu les cartes et ce début de JO donnait aussi un peu cette impression-là pour l'équipe de France. Là, on a vraiment, encore une fois, elle était venue pour gagner en leader. Elle l'a fait, voilà. On a vu le VTT, on a vu que ce n'était pas aussi simple parce qu'on avait deux Françaises qui étaient plutôt favorites et qu'on imaginait ou on espérait faire 1 et 2. À l'arrivée, on a vu un triplé suisse. Donc, ce n'est pas si évident que ça. C'est pour ça que c'est fort parce qu'on ne décrète pas de gagner. On en a envie, on en a très envie. On fait tout ce qu'on fait, on fait tout ce qu'il faut faire pardon, pour y arriver. Tu l'as dit avec l'entraîneur de Jiu-Jitsu, elle a travaillé le sol, toutes ces choses-là. Mais n'empêche qu'on n'y arrive pas en claquant des doigts, en disant bah, elle l'a fait et c'est vraiment remarquable. Et ça vous met dans une catégorie qui est quand même à part. J'ai une question à poser à Raphaël qui est spécialiste de judo, bien plus que moi. Les quatre combats, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un petit doute ou un peu peur ou au contraire tu as eu l'impression tout au long de la journée qu'elle maîtrisait de A à Z et qu'il n'y aurait pas de problème?
Alors, sur les trois premiers, franchement, absolument aucune crainte. Bon, le premier, elle a expédié au bout de 20 secondes. Le deuxième, le troisième, elle a vraiment étouffé ses adversaires. Elle a gagné que d'un wazari, entre guillemets. Mais franchement, en face, elle faisait que défendre. Et honnêtement, elle n'a jamais vraiment été mise en danger. Des petites tentatives de contre, mais rien de bien tranchant. Sur la finale, au début, on sentait qu'il était peut-être un peu plus tendu. En même temps, en face, Tersenyak, c'est quand même un sacré bloc. Elle est très rugueuse comme combattante. Elle a tenté à chaque fois de l'amener au sol. C'était à chaque fois des attaques, pas forcément ultra poussées, mais pour continuer le combat, on est waza là où elle excelle. Et au début, elle prend un shido pour non-combativité, Clarisse. Je pense que ça l'a un petit peu reboosté aussi. Ça l'a un petit peu aidé à rentrer dans cette finale. Derrière, la Slovène prend deux avertissements à son tour pour fausse attaque, justement. Là, pour le coup, la dynamique s'est un peu inversée. Et finalement, non, l'attaque, la seule vraie belle attaque lancée par Clarisse dans cette finale, celle qui a fait mouche, c'est son Kouchigari en début de Golden Score, avec derrière rotation des épaules au sol pour vraiment appuyer sur le dos. Et puis voilà, l'affaire était pliée, Wazari tombé, et derrière l'émotion que l'on sait.
Finalement, celle qui résume peut-être le mieux cette Clarisse Agbegnenou, c'est sa première adversaire, hein, Sandrine Billet, qui a dit « Clarisse, c'est une Porsche ». Moi, je suis à vélo. On a l'impression qu'aujourd'hui, tous ses adversaires étaient à vélo et Clarisse, elle était lancée comme une Porsche. Merci, Raphaël. Merci, Maxime. On va passer tout de suite à notre deuxième rubrique, notre nouvelle rubrique Retour Tokyo avec notre premier invité, Samuel Kistohuri. Allez, on enchaîne avec cette bonne surprise aujourd'hui. Samuel Kistohuri qui nous fait l'amitié de venir nous voir dans le podcast. Samuel qui revient tout juste hein, de Tokyo. Il a passé la nuit dans l'avion et voilà, il sort de l'avion, il vient nous voir à Eurosport pour échanger un peu sur... Bah, malheureusement, on aurait aimé le voir arriver avec une médaille autour du cou. Ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. Samuel, est-ce que le trajet déjà s'est bien passé? Pas trop fatigué?
Non, le trajet s'est très bien passé, mais okay. J'ai dormi 12 heures.
Pas mal.
Non, j'abuse, j'ai dit 12 heures, mais j'ai dû dormir 8 heures. Mais voilà, comme je suis un gros dormeur, j'aime bien dormir et je dors partout. Donc voilà, et en plus on avait de la place dans l'avion, du coup ouais, le trajet s'est très bien passé.
Donc Samuel Kistohuri, boxeur en moins de 57 kilos, qui s'est incliné malheureusement au point d'entrée face à l'Américain Duke Ragan. Ça n'a pas été aussi simple qu'on aurait aimé. C'est une décision plutôt plus ou moins controversée, Maxime.
Bah oui. Et j'ai envie de dire, déjà, j'ai envie d'avoir le sentiment de Samuel sur ce combat parce qu'on a senti après le combat que tu étais vraiment évidemment très déçu et qu'il y avait une part d'injustice dans cette décision.
Mais il y avait vraiment une part d'injustice. Le problème, c'est que voilà, premier round, ok, je lui donne et je perds, mais pas les 2 et 3. C'est impossible que le 2 et 3. On peut me donner 3-2 et le dernier on me donne 4-1, c'est incompréhensible. Normalement le dernier on va me donner 5-0, mais et du coup il y a un arbitre qui lui donne gagnant sur tous les rounds, l'Argentin. Mais ce que je comprends pas. Et que voilà, pour moi, c'est ça me dégoûte un peu de la boxe amateur. Et voilà, maintenant, il faut faire face. On est dans le présent, on n'est plus dans le passé, et il faut aller de l'avant.
Alors moi, je suis un amateur, on va dire, éclairé de la boxe. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose, ce que tu racontes là, qui est assez récurrent dans la boxe amateur, et notamment au jeu. On a eu des exemples célèbres de Français qui sortaient du cours, du ring, pardon, très, très déçus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement avec le décompte ou l'arbitrage?
En fait, le problème de ça, c'est déjà là, il faut se dire que c'est le CIO qui a repris l'arbitrage, c'est plus la IBA. Donc normalement, il ne devrait plus avoir de problème. Mais je pense que ça, c'était un problème plus faute humaine que, on va dire, arbitral de tous les arbitres. Donc je pense que la faute, elle vient de l'humain, mais pas, voilà, il n'y a pas eu des dessous de table ou un truc comme ça. Donc la boxe avec les juges, c'est compliqué. Surtout en amateur, même en pro aussi des fois. Donc, faut que ça change un peu. Et bon, voilà, là, je perds en 16e de finale. Alors, si ça m'aurait arrivé en quart de finale, je ne serais pas dans quel état je serais. Peut-être comme Alexis Vassine. Et franchement, je comprends.
Mais tu dis que c'est une erreur humaine, il n'y a pas de dessous de table, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, les juges ne sont pas suffisamment compétents. C'est ça? Et à un moment ou à un autre, si on voit bien qu'un boxeur met plus de coups que l'autre.
Ça, c'est sûr, mais c'est que des fois, il y a des arbitres, on dit qu'est-ce qu'ils font ici, tu vois?
À ce point-là, même à ce niveau-là, même aux Jeux Olympiques.
Oui, à ce niveau-là, il y a tellement de... Tu vois, et des fois, il y a des arbitres, ils sont même pas... ils sont pas sur le même round. Ils vont te mettre 3-2 sur le deuxième, alors qu'il y a deux juges qui l'ont vu gagner sur le deuxième round. Et après, il y en a un juge qui le voit gagner sur le dernier round. Mais c'est incompréhensible. Je me dis, en plus, le dernier round, je fais un dernier round, on va dire, incroyable, parce que je l'asphyxie et qu'il arrive que à s'accrocher, il ne met même pas de coup. Et le problème, c'est ça. C'est comment tu peux donner à un adversaire un point. Soit t'as arrivé, t'as fait les yeux fermés et t'as appuyé sur le bouton, ou soit, je sais pas, tu l'aimes bien et t'as appuyé sur le bouton. Mais je comprends pas.
Tu nous disais, c'est à dégoûter un peu de la boxe amateur. Du coup, la suite, c'est quoi pour toi?
Mais moi, je vais passer pro. Voilà, j'ai des quelques propositions à l'étranger. Donc, je suis en train de voir avec mon manager. Et le problème, c'est que il y a Paris 2024, c'est pas un problème. C'est ce qui est bien, c'est qu'il y a Paris 2024, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, ça passe vite. Je me dis de revenir peut-être un an avant Paris 2024, faire une Olympiade, objectif médaille, comme je fais d'habitude. Donc quand je suis parti, j'ai fait 6 tournois. Sur 6 tournois, j'ai fait 5 médailles d'or, une médaille d'argent. C'est les Jeux Olympiques. C'est pour moi, il me faut une médaille pour aux Jeux Olympiques.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que comment ça se passe justement? Parce que si tu passes professionnel, est-ce qu'il y a une durée dans laquelle tu dois repasser amateur? Puisque évidemment, pour les JO, tu dois être amateur.
Non, c'est pas question d'être amateur pour les JO. Les JO, c'est question, en fait, on peut faire les Jeux même en étant pro. Mais sauf qu'il y a moins de compétition en pro qu'en amateur. Il y a plus de compétition en amateur. Ça veut dire que c'est mieux de revenir un an à l'avance. Comme ça, on fait une bonne préparation amateur. Et au moins, parce que en fait, amateur et pro, c'est deux sports, on va pas dire, c'est deux sports différents. C'est comme le double au tennis et le simple au tennis. Donc, il faut s'adapter. Et c'est plus dur de revenir en amateur que aller en pro.
On va passer sur une note un peu différente. Tu vas nous raconter un peu comment c'était Tokyo, parce qu'on en entend parler. Les internautes, ceux qui nous écoutent aussi sur le podcast olympique, ont envie de savoir, d'avoir le ressenti d'un athlète qui était sur place. Le village olympique, la chaleur, tout ça. Raconte-nous un peu. C'est quoi? Il fait vraiment chaud à Tokyo, comme tout le monde le dit?
Franchement, il fait vraiment chaud. Eh, mais j'ai jamais vu ça. J'ai cru que j'étais en Afrique. Et que, tu sais, déjà, je suis originaire de l'île Maurice, tu vois. Il fait chaud à l'île Maurice. Mais là, le soleil, comment il tapait, c'est incroyable. Et non, franchement, il fait chaud. Après, le village olympique en lui-même, il est très bien. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir. Ça, c'est vraiment un souci. On n'a pas le droit d'aller voir les autres sports. Bon, le masque est obligatoire, bon, ça ne me dérange pas dans le village, mais on est obligé d'aller de regarder que notre sport. Et on fait des tests PCR tous les jours. En fait, les tests PCR, c'est pas le bâton dans le nez, donc ça va. C'est de cracher dans un petit truc et respecter la zone. Donc voilà.
Et justement, il t'a pas manqué quelque chose dans cette expérience olympique, justement, parce que comme tu dis, tu peux parler des autres sports. Est-ce que, par exemple, si jamais ça avait été des jeux normaux, entre guillemets, non covidés, on va dire, est-ce que tu serais resté un peu plus à Tokyo?
Oui, je serais resté un peu plus parce que tu rencontres d'autres personnes. C'est ça l'esprit français, c'est que tu rencontres d'autres Français, tu soutiens d'autres Français, tu peux aller voir d'autres Français. Et on est une nation unie et il faut toujours se soutenir. Et c'est dommage qu'on ne peut pas aller voir les autres sports parce que moi, je serais bien resté pour aller voir les autres sports. Ça nous fait connaître d'autres sports, pas que notre sport, et ça nous ouvre sur d'autres sports aussi.
Tu as croisé quand même du monde un peu dans le village olympique. Dis-nous un peu les stars que tu as vues.
Djokovic.
Tu as pris des photos ou pas?
Non, j'ai pas pris de photos. En fait, j'arrive pas à voir la personne et lui dire ouais, je vais faire une photo avec toi. En fait, c'est tellement, il y a tellement de personnes, tellement de personnalités qu'on voit les Kevin Durant, on voit des Gignac, on voit des Thauvin. Des gens que tu vois, que tu vas pas voir d'habitude, tu vois, qu'on verra jamais ou comme ça. Donc non, c'est clair, on voit d'autres personnalités et c'est très bien. C'est les Jeux Olympiques, c'est ça aussi.
C'est sûr que croiser à la cantine Djokovic, Gignac et Kevin Durant, ça arrive pas tous les jours. En tout cas, c'est pas la cantine d'Eurosport, ça. J'ai jamais vu ça, moi.
Tu as quand même un peu échangé avec certains athlètes français. Tu as pu quand même parler avec eux.
Oui, avec Clarisse et Samir Aït Saïd, parce que je les connais aussi. On arrive à échanger. Il y a eu un nageur qui m'a parlé aussi, qui m'a dit « j'ai vu ton combat, je ne comprends pas comment ça se fait ». Donc non, on échange avec les autres sports. On essaie de savoir quand ils vont commencer la compétition, pour savoir quand ils passent à la télé. Et comme ils passent à la télé, comme c'est l'équipe de France, on est obligé de les soutenir. Pour nous, voilà, on veut ramener le plus de médailles. Je suis désolé de ne pas avoir ramené cette médaille parce que pour moi, je voulais faire une médaille et ça me, comme j'ai dit, ça me désole de ne pas faire une médaille.
Pardon. J'ai juste une dernière question pour revenir à la boxe. À Rio, ça avait été un carton. On espère quoi de la boxe en termes de médaille?
Mais déjà, en termes de médaille, vous pouvez. Déjà, il y a Mourad Aliyev, Bilal Benama et Sofia Noumbia et même Maeva Amadou qui combat à 12h30 heure française. C'est 4 chances de médaille. Maeva qui était championne du monde, Sofia Noumbia qui était vice-champion olympique et champion du monde aussi, après Bilal Benama, 3e championnat du monde, et Mourad Aliyev qui fait des très bonnes compétitions à chaque fois, donc vice-champion d'Europe, et c'est des chances de médaille. Et je pense qu'ils peuvent ramener autant que les autres une médaille d'or, et même si c'est pas une médaille d'or, ce sera déjà très bien, médaille de bronze, médaille d'argent.
J'avais rencontré Oumia il y a 5 ans, donc au retour de. Alors, pour l'anecdote, c'est la seule fois où j'ai eu une médaille olympique dans les mains. C'est très lourd, ça fait très plaisir. Là, je ne l'ai pas mise autour du cou, je partais du principe que ce n'était pas moi qui l'avais gagnée, mais rien que de la toucher, j'ai une photo, c'était fantastique.
Ah, mais tu m'étonnes. Et Sofiane, en plus, une personne. C'est de qualité et franchement, rien à dire.
Ouais, rendez-vous dans 3 ans.
C'est ça, j'allais dire ça.
Avec la médaille autour du cou, donc.
Ah, c'est sûr. 2024, là, objectif médaille d'or. Et comme je dis, de toute façon, quand je vais sur une compétition ou autre, c'est de faire une médaille d'or. Mais c'est pas une médaille d'argent. Il faut que je mette objectif, c'est une médaille d'or.
Évidemment. Bah, écoute, Samuel, merci. Samuel Kistoury, qui est un des premiers athlètes qui rentre de Tokyo. Ça s'est pas passé comme il voulait, mais on sent cette rage, on sent cette envie de revenir encore plus fort. Et écoute, on te suivra et en tout cas, d'ici là, profite bien de je sais pas ton programme, si c'est les vacances, si c'est tout ça, mais voilà. Merci à toi, à bientôt.
Merci à vous, en tout cas. Merci à Eurosport.
Merci.
La question qui fâche aujourd'hui, elle concerne Naomi Osaka. Pour en parler, on accueille Arnaud Di Pasquale, notre consultant, et Bertrand Milliard, notre spécialiste tennis de la rédaction, toujours aux côtés de Maxime Dupuis. Avec cette question, Osaka pouvait-elle vraiment le faire? On rappelle, elle s'est inclinée mardi au 3e tour du tournoi olympique face à Vondroušová en 2-7 secs, 6-1, 6-4. Alors, est-ce qu'elle avait une chance, Naomi?
Alors, on parle souvent de la malédiction du porte-drapeau pendant les Jeux, c'est-à-dire que porter drapeau, c'est une charge émotionnelle et ce n'est pas toujours évident d'enchaîner. Elle a fait, entre guillemets, encore pire, c'est-à-dire qu'elle a allumé la vasque olympique, qui est un honneur absolu. Et dans l'histoire, alors elles sont rares à avoir participé et ils sont rares à avoir participé aux Jeux derrière, parce que généralement, on demande à des anciens athlètes de le faire, Mohamed Ali, Michel Platini, Paavo Nurmi, etc. Je ne vais pas faire la liste. Voilà, je ne vais pas faire la liste. Et il se trouve que dans l'histoire, elle a raté quand même un rendez-vous vraiment avec la légende parce qu'elle n'a pas réussi à faire ce qu'avait fait Cathy Freeman en 2000, c'est-à-dire allumer la vasque et être championne olympique du 400 mètres derrière. Mais je pense, alors pour moi, vous allez me dire, messieurs, vous êtes bien mieux placés que moi pour en parler, que c'est peut-être pas là que ça a pêché. On rappelle qu'elle n'a plus joué depuis Roland-Garros, c'est son retrait. Et finalement, la charge, même tout simplement physique, était peut-être trop compliquée, plus que mental finalement, parce que repartir dans la compétition comme ça après un tel arrêt, c'était peut-être ça le principal problème qu'elle avait en face d'elle.
Moi, je voudrais revenir sur un autre fait, en fait. On a eu des débats, Adrien, tu t'en souviens, sur Roland-Garros, sur Osaka, on en a eu plein, avec Laurent, etc., et Camille. Je l'avais défendue à l'époque. Je l'ai défendue parce que je trouvais qu'elle pouvait réellement avoir un problème mental, qu'elle pouvait réellement être très introvertie et donc avoir un souci par rapport à la presse, être mal à ce moment-là, mal dans sa peau, etc. Bon. J'ai plus de mal, malheureusement, à la défendre aujourd'hui, dans le sens où elle est allée, comme l'a dit Maxime, faire quelque chose qui est extrêmement unique, à embraser la vasque olympique. On le fait devant plus d'un milliard de personnes. Donc, c'est quand même quelque chose, même si elles ne sont pas physiquement présentes, les personnes, il y a quand même tous les athlètes, en tout cas présents, des délégations dans le stade, il y a tous les officiels, il y a les officiels de son pays, notamment il y avait l'empereur du Japon. Quand on est très timide et très introverti, ce n'est pas le truc le plus facile à faire d'aller embraser la vasque, même si on n'a pas à parler. Elle a quand même réussi à le faire, donc à prendre sur elle pour faire ça. En revanche, aujourd'hui, après sa défaite, elle ne s'est pas présentée en zone mixte, ce qui veut dire qu'elle reste sur sa lignée de ne pas vouloir s'avancer, de ne pas vouloir parler à la presse. Donc, je pense que moi, tous ces problèmes-là récents, qui ont fait qu'elle n'a pas joué depuis Roland-Garros, puisqu'elle a fait un trait également sur Wimbledon, elle s'est mise en retrait normalement, pour régler peut-être ce problème-là mental, en tout cas, parce qu'elle ne se sentait plus d'être dans le monde du tennis tel qu'il est aujourd'hui avec des conférences de presse obligatoires. Bah, effectivement, il y a l'absence de compétition, mais il y a aussi tout ce qui s'est produit autour. Et je pense que là, elle se tire un peu une balle dans le pied en disant « oui, je vais embraser la vasque le jour de la cérémonie
d'ouverture ». C'est dur de dire non quand même.
En revanche, je continue à ne pas parler à la presse après une défaite au troisième tour du tournoi olympique. Bon, c'est là, honnêtement, elle devient beaucoup moins défendable.
Elle a répondu à quelques questions quand même. Là.
Bah, je ne sais pas, elle m'a dit qu'elle
a zappé
la zone.
En fait, elle a zappé et elle a finalement accepté de le faire et elle est partie presque en larmes.
Peut-être parce qu'on lui a... Parce que, oui, peut-être aussi qu'elle est revenue parce qu'on lui a dit que voilà, c'était quand même... sinon, ça posait un problème. Donc, je trouve que tous ces problèmes extra-sportifs, finalement... auquel elle est confrontée depuis qu'elle a eu ses déclarations à Roland-Garros, bah font que forcément elle est moins concentrée sur son tennis et que forcément ça peut provoquer une défaite en plus d'un tournoi à domicile où il y a beaucoup de pression. Nishikori la gère plutôt bien pour l'instant, simple et double, même si ce n'est pas simple pour lui. Mais voilà, Osaka n'a pas géré cette pression de Jeux Olympiques à domicile. C'est ni la première ni la dernière.
On a l'impression que rien n'est vraiment réglé finalement, Arnaud.
Ouais, mais moi, je vous rejoins après d'allumer la vasque. Elle a plus que raison d'y aller, peu importe, c'est extraordinaire. Enfin, c'est le moment d'une vie malgré tout. Ça reste une icône. Moi, je suis assez admiratif des combats enfin, qu'elle défend malgré tout. Donc, pour toutes ces raisons, elle a raison d'y aller. Après, psychologiquement, elle est touchée depuis quelques mois. Et c'est une fille qui s'est toujours montrée, qui a toujours montré, je trouve, beaucoup de force, mais en même temps beaucoup de fragilité. C'est-à-dire que depuis le début de sa carrière, elle alterne le chaud et le froid. Et cette période-là, depuis quelques semaines, quelques mois, montre qu'elle est très fragile. Et d'ailleurs, quand je lis une phrase d'une athlète de ce niveau qui potentiellement quand même a toutes les armes pour aller au bout, à la maison, pour écrire l'histoire, et qui dit « je suis contente d'avoir fait deuxième tour et de ne pas avoir perdu au premier tour », c'est fou. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de cette phrase. Elle est quand même lourde de sens. C'est-à-dire qu'elle est à des années-lumière d'avoir imaginé en fait aller au bout. C'est-à-dire qu'elle n'imaginait pas une seconde être médaillée. Ça veut dire que c'était simplement « je vais faire ce que je peux ». Mais il y a un truc qui est effrayant dans cette phrase de la part justement d'une joueuse de ce calibre qui est de dire « il fallait simplement que je puisse jouer, je suis contente ». C'est presque de la figuration alors qu'on est aux Jeux Olympiques. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, cette phrase, elle est lourde de sens, mais ça montre aussi dans quel état psychologique elle est depuis quelques temps.
Elle n'était pas en mission comme toi, tu as pu l'être en 2000. Où tu nous as répété régulièrement que tu as senti que voilà, dès le début, tu voulais aller chercher cette médaille. Et là, c'était un tout autre état d'esprit.
Bien sûr, mais Adrien, mais comme on le sent chez plein d'athlètes, là, on le voit dans leurs yeux, dans leur concentration. Il n'y a qu'un truc qui brille. On voit les médailles briller dans leurs yeux.
On a vu Clarisse Agbenienou.
Il a pas battu grand monde. Il a battu Federer pour la troisième place. Ça va, c'est pas non plus...
Non, mais c'est vrai, finalement, voilà, Maxime.
Bah, maintenant, je reviens quand même sur l'aspect physique, parce que ça, c'est aussi ce qui m'intéresse. Le mental, évidemment, on sait que c'est la tête et les jambes, l'un ne va pas sans l'autre. Mais est-ce qu'elle pouvait décemment, on sait que par exemple, hier, je crois, Novak Djokovic, c'est un peu plein, et il n'est pas le seul, des conditions climatiques, il fait très, très, très chaud sur Tokyo. Est-ce que tout simplement,
et humide,
la question est simple, est-ce que quelqu'un qui n'a quasiment pas joué au tennis depuis 2 mois, qui n'a pas joué, on va dire depuis 2 mois, pouvait décemment espérer quelque chose pendant ces JO
d'un point de vue presque physique. Et c'est quand même aussi des conditions qu'elle connaît, parce qu'elle est japonaise, donc elle connaît bien ces conditions-là. Bah, Ishikori, lui, je pense qu'il il connaît aussi ses conditions de jeu. Je ne sais pas trop si c'est les conditions de jeu, parce que Osaka, elle a gagné 2 fois l'US Open. Honnêtement, on a eu des US Open où des chaleurs humides comme ça.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est aussi la coupure de 2 mois.
Oui. Mais bon, j'imagine pas qu'elle soit arrivée quand même à Tokyo sans avoir tapé la balle, sans s'être entraînée. Je pense quand même qu'elle a dû jouer. Et en plus, elle a eu le temps, voilà, pour le coup, de s'entraîner dans les conditions du Japon. Parce que je pense qu'ayant zappé tous les tournois depuis Roland-Garros, ça fait un moment, je pense, qu'elle a dû arriver. Et en plus, je pense qu'elle doit être prévenue quand même depuis un petit moment qu'elle va être la dernière porteuse de la torche et allumer la vasque. Donc, je pense, alors, peut-être que ça lui a pris toute son énergie. Mental, mais par contre s'adapter aux conditions, je pense qu'elle a eu le temps de le faire, Arnaud.
Moi, je pense que tu peux assumer cette pression à la seule condition que tu arrives dans d'excellentes dispositions. En fait, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Maxime. Mmh. C'est-à-dire qu'avec cette coupure malgré tout et finalement le poids justement de la mettre autant en avant, mais ce qui est tout à fait normal au regard encore une fois de la figure de ce qu'elle représente, mais elle arrive avec une vraie période de creux en fait derrière elle, et comme finalement elle en a très peu connu, hein. Donc arriver avec finalement des millions, hein, tu parlais de milliards de gens qui te regardent, et avoir ce poids, finalement ce poids se transforme en un truc qui t'écrase plutôt qu'il te porte, et c'est toute la différence en fait. Soit à un moment donné tu es sublimé par l'événement, soit tu es anéanti et écrasé par l'événement. Là clairement elle s'est sentie toute petite, c'est pas la Osaka qu'on a pu voir à certains moments, justement, quasiment invincible, mais parce qu'elle arrive encore une fois fragilisée par tout ce qui s'est passé ces derniers mois, et le fait qu'elle n'ait pas joué en compétition, c'est certain, à jouer, même si elle s'est entraînée, l'entraînement ne remplace pas la compète de toute façon et les victoires.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est une joueuse c'est vraiment une joueuse de grands événements. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a brillé en Grand Chelem. Déjà 4 titres du Grand Chelem, c'est pas rien. 2 Australie, 2 US Open. En revanche, on a rarement vu briller dans des tournois moins importants. Ça l'intéresse moins. Donc, moi, je pensais qu'au Japon, à domicile et sur des Jeux Olympiques, qui étaient un grand événement, elle allait justement briller, parce qu'elle choisit beaucoup ses événements et qu'elle allait marquer l'histoire en gagnant à domicile un titre olympique pour le Japon, en tout cas en obtenant une médaille. C'est ça qui me surprend, c'est qu'en fait, elle qui choisit beaucoup et qui en général peut être très forte sur un événement très important et peut-être à un niveau beaucoup plus moyen, médiocre sur des tournois moins importants, ça me surprend qu'elle soit passée à côté justement sur ces Jeux Olympiques à domicile qui seront les seuls de sa carrière, évidemment.
Mais peut-être que finalement quelque chose s'est cassé hein, pendant ce Roland-Garros. On verra à l'US Open si elle se présente et si elle arrive à rebondir. Ce sera à suivre évidemment fin août sur les antennes d'Eurosport. Merci messieurs d'avoir participé à cette question qui fâche. Et on passe tout de suite à l'affiche du lendemain. L'affiche du jour, ou plutôt les affiches du jour, devrais-je dire à présent dans cette dernière rubrique, parce qu'on a choisi de vous parler des matchs de l'équipe de France en sport collectif. Alors, il y aura le volley Argentine-France à partir de 7h20, il y aura le foot France-Japon à 13h30, le basket France-République tchèque à 14h et le handball France-Allemagne à 14h30. Alors, il faudra choisir, on ne pourra pas tout regarder. Maxime, tu vas te brancher sur quoi, toi ?
Bah, le volley, ça va être facile, il suffit de se réveiller. Pas trop de
concurrence
en face. Déjà, une chose, il va falloir s'habituer à cette situation-là parce qu'en 2024, pour les Jeux de Paris, toutes les équipes de France seront officiellement et automatiquement qualifiées dans leur sport respectif. Donc là, déjà, on a un bon cru en 2021 avec énormément de sport co. Ça sera encore plus dur. Alors, je pense que je vais être très classique dans mon choix. Le premier qui commence, c'est France-Japon en foot. Je vais commencer par le football. Et de toute façon, c'est presque le match le plus intéressant, entre guillemets, au niveau de la dramaturgie, parce qu'on le sait, l'équipe de France a perdu son premier match contre le Mexique 4-1. Elle a fait un véritable miracle contre l'Afrique du Sud en gagnant 4-3 après avoir été menée 3 fois au score, le triplé de Gignac, le but de Savagnier dans les arrêts de jeu. Donc, je pense que, en plus, c'est le sens de l'urgence. Si vous ne les regardez pas demain, il est possible que vous ne les regardiez plus après parce qu'on sait que cette équipe a beaucoup de mal. Et en plus, ça peut être… En fait, je l'ai déjà dit ici il y a quelques jours, j'aimerais tellement que cette équipe réussisse pour donner tort, non pas à ceux qui ne sont pas venus, mais à ceux qui n'ont pas donné droit aux joueurs de venir.
Au club, voilà, quoi. Au club,
voilà,
de
au club, ouais, qui sont des véritables apothicaires et je le garde en travers de la gorge. Donc voilà, j'aimerais bien que cette équipe gagne. Moi, je serais derrière elle au maximum. Mais après, c'est vraiment le choix du roi parce que, comme tu l'as dit, derrière, il y a France-République Tchèque en basket. Match piège aussi parce qu'ils viennent de battre les Américains. Ils ne se sont pas enflammés après la victoire contre les Américains. D'ailleurs, c'était très, non pas étonnant, mais ça disait quelque chose de la maturité. Mais il va falloir le prouver sur le parquet. Et puis l'équipe de Hand, évidemment, qui a réussi son entame, qui passe un premier test face à l'Allemagne. Donc oui, c'est vraiment le choix du roi.
Mais
je pense que… Je vais y aller en chronologie classique. On va commencer.
Tu vas changer quoi ? Une petite demi-heure de chèque et puis voilà. Tu vas revenir. Après, tu vas zapper quoi ? La télécommande à la main.
Mais si voilà, si vous voulez faire le choix de l'urgence et de peut-être de la dernière chance, évidemment France-Japon qui est le seul match avec un véritable intérêt sur le côté à la vie et à la mort.
Mmh. Raphaël, qu'est-ce que tu vas choisir ?
Disons que le
tu
choix.
Tu vas faire le multi-écran, bien sûr. Tu vas faire le multi-écran.
Ce qui est bien, c'est qu'à la rédaction, on a plusieurs écrans, donc c'est assez appréciable. Cette période-là. Très franchement, le football, moi également, m'attire beaucoup pour les raisons évoquées par Maxime. On a envie de la voir, cette équipe de France, peut-être pour la dernière fois, on n'espère pas. Et on peut croire à la belle histoire, cette remontée contre l'Afrique du Sud, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, c'est peut-être le point de départ d'une aventure, peut-être eu un déclic et que ça va vraiment lancer cette aventure olympique. Pour ça, il va falloir voir ce que ça donne contre le Japon, on compte sur notamment André-Pierre Gignac. Et on espère que la défense va être un peu plus robuste que sur les deux premiers matchs, sinon ça va s'avérer assez délicat. Je suis assez curieux de voir ce que vont donner les volleyeurs également. Je me leverai de bonne heure. Comme
Argentine à 7h20.
Exactement. Et parce que bon, ils ont une entame très compliquée, sont bien rattrapés face à la Tunisie. Là, il faut confirmer que leur compétition est vraiment lancée. Et ensuite, je suivrai. Je vais faire comme Maxime, je vais enchaîner. On ne va pas voir le temps passer, c'est ça qui est formidable, on va pas voir la journée passer. Et oui, effectivement, le basket, ça va être important et intéressant de voir s'ils réussissent à bien manœuvrer ce match dans une position qui sera différente de celle qu'ils avaient face aux États-Unis, évidemment. Mm-hmm. Où là, on attendra confirmation de leur part et voir quelles pourraient être vraiment leurs ambitions sur ce tournoi olympique. Et j'ajouterai une petite anecdote, comme Maxime le dirait.
Ces anecdotes.
En 2024, on aura effectivement des équipes dans tous les sports et on va devoir donc se mettre aussi un petit peu plus sur le hockey sur gazon, parce qu'on aura aussi de belles équipes de France.
Voilà. Et on te rappellera, hein, j'ai l'impression que tu vas devenir spécialiste de hockey sur gazon. Avant de vous laisser, messieurs,
ça vas-y, demande. Alors, je me souviens de. Alors, c'est une anecdote de vieux aussi. À Atlanta 96, les États-Unis étaient venus avec l'équipe de handball. Ils prenaient raclée sur raclée parce qu'évidemment, c'est difficile. Alors, je crois qu'on peut refuser plus ou moins d'y aller si ça ne passe pas. Mais bon, c'est au contact des meilleurs qu'on y arrive, donc il faut absolument accepter. Et puis, ça permet de faire vivre le rêve olympique à tout le monde.
Ce serait quand même dur de dire à des licenciés de hockey sur gazon, bon, en fait, on n'est pas assez bon, donc on ne va pas y aller. Pilule serait impossible à avaler. Mais ceux quand même, avant de se lâcher.
De water polo, tout ça, ça va être fantastique. Ça va être une orgie absolue en 2024, de sport collectif notamment.
Il faudra être prêt.
Et surtout, on espère que demain, ça se passera bien pour tout le monde parce que ce qui va être très sympa, c'est évidemment les matchs à élimination directe. Et plus on en aura la semaine prochaine, même si c'est à la même heure, on sera quand même très content d'avoir potentiellement du foot, du hand, du volley, du basket en même temps pour vibrer encore plus dans cette deuxième semaine des Jeux Olympiques.
Exactement. Avant de vous laisser, messieurs, vous allez quand même faire des petits pronostics sur tous ces matchs-là parce que c'est pas drôle sinon. Allez, Argentine-France, rapidement.
3-1 France, allez hop.
Petit 3-1 pour la France, oui, je suis d'accord.
France-Japon en football.
3-2 France. Moi, je donne tout le monde France.
Bah, malheureusement, je suis moins optimiste. Je vois bien un petit 2-0 pour le Japon.
Bon, tu sors, Raphaël. Allez, hop, c'est fini. Participera plus au podcast. France République Tchèque au basket.
94-80 France. Hop, allez.
En plus, tu donnes le score. Allez, hop,
le score. Non, jouer une victoire française de 15 points, 15 à 20 points d'écart.
Et France-Allemagne pour terminer en handball.
27-25 France. Voilà, moi, c'est 4 victoires de la France.
Ça donne le score, c'est pas si. Une victoire française également de 5 points d'écart, 5 à 10 points d'écart.
Dans le jargon, donner le score comme ça, en faisant croire qu'on en est sûr, ça s'appelle faire une Martin Mossier. Voilà.
Ouais, et ben je vous conseille pas de suivre tout ça parce qu'on a vu ce que ça a donné à l'Euro et c'était pas jojo au niveau des résultats. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le télécharger, à vous abonner, à nous donner des petits commentaires pour qu'on progresse jour après jour. Profitez de ces jeux sur Eurosport. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les jours. Vous avez votre téléphone, vous avez votre télé, vous choisissez ce que vous voulez voir. Et nous, on se dit à très vite. Salut !